On a tous été estomaqués hier en fin de journée quand on a appris que l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, était formellement accusé d'agression sexuelle armée. Ce matin, il s'est présenté au poste de police et pour en discuter, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va aller joindre à l'instant celui qui est avocat criminaliste, Maître Vincent Momigny. Bonjour.
Bonjour, Éric.
Donc, est-ce que André Boisclair, ce matin, avait le choix de se présenter ou non au poste de police? Puis qu'est-ce qu'il est allé faire, là?
C'est un choix qui était un petit peu pieux, Éric. C'est-à-dire que s'il ne se présentait pas, c'est les policiers qui allaient le chercher chez lui. Alors, nécessairement, là, sans juger là, du pouvoir monétaire là, de M. Boisclair, dans un quartier où les gens se connaissent, je veux dire, M. Boisclair est une personnalité publique, l'a été du moins dans le passé. Lorsque les policiers, et pour qu'il se rende au poste, c'est de deux choses. L'une, il savait que les policiers voulaient le rencontrer, soit pour l'accuser formellement ou pour prendre sa déclaration. Dans le cas présent, pour l'accuser. S'il ne se présentait pas, là, je veux dire, il allait le chercher chez lui, là, avec les sirènes, etc. Là.
OK, donc, comment ça marche? Par exemple, là, si d'un matin, là, moi, je suis accusé de X, Y, Z, je reçois un avis, n'importe qui est accusé au criminel, on reçoit un avis, la police nous appelle, puis nous dit, présentez-vous au poste de police demain?
Ça dépend. Parfois, les policiers vont se présenter au domicile. On n'est pas capable de savoir en ce moment, là, Éric, s'il y avait un mandat d'arrestation contre monsieur Boisclair. C'est-à-dire que, bon, il y a probablement les policiers qui ont voulu lui signifier une promesse de comparaître, une date de cour. On comprend là, que les procureurs de la Couronne ne s'objectaient pas à sa remise en liberté. Ce qui me fait penser, on y viendra probablement plus tard dans le courant d'entrevue, que la victime ou le plaignant, la personne qui a porté plainte, connaissait M. Boisclair. Parce que si c'était quelqu'un là qui agresse en série, là, quelqu'un, par exemple, là, qui aurait des antécédents d'agression sexuelle sur des enfants et qui sévirait à nouveau, on l'aurait pas relâché. Parce qu'on doit quand même protéger des victimes éventuelles, d'autres victimes de d'autres crimes que cette personne-là pourrait commettre. Et c'est la responsabilité des PCP de s'assurer que si on met quelqu'un en liberté, il n'y a pas de risque qu'il récidive.
Puis comment ça se fait que les journalistes savaient à quelle heure et à quel endroit il allait être? Parce que les policiers rendent ça public, ils disent « OK, Boisclair va arriver à 8h30 à telle porte, à telle place, à telle adresse ».
Écoutez, théoriquement, là, c'est pas supposé savoir. Vous le savez comme moi, là, vous avez les avocats, les policiers, les journalistes, là, on se parle. C'est quelque chose qui fait vendre nécessairement, qui intéresse. M. Boisclair, malheureusement, là, a été dans les actualités judiciaires quelques fois. Là, oui. Il commence à rajouter à sa fiche là, une faculté affaiblie, une consommation de cocaïne dans le passé, faculté affaiblie l'année dernière, l'année d'avant. Donc, nécessairement, là, c'est quelque chose là, qui était d'intérêt public. Vous remarquerez que les journalistes sont souvent au bon endroit lorsque les gens passent d'une cour à l'autre. Là, il y a quelques secondes pour les voir aux mains des policiers.
Fait qu'il y a des policiers, dans le fond, qui pissent dans les oreilles des médias. Là. C'est ce que je comprends,
voilà,
ce que vous êtes en train de dire.
Les avocats, je veux dire, autant que nous, on se fait donner des scoops par les journalistes, ce qu'on en donne également, nous aussi. C'est un système de grattage de dos mutuel. Là. Okay. Mais oui, nécessairement, c'est probablement des policiers parce que ça s'était pas rendu encore au niveau judiciaire. Là. Cette personne-là n'a pas comparu à la cour, donc il n'y a pas d'avocat comme tel. On pressent là, qu'il y aura probablement le même avocat que la dernière fois. Mais c'est certain que c'est pas cette personne-là qui a coulé l'information, donc ça sent là, une suite là, au niveau des policiers.
Là. Est-ce que, parce que là, on comprend que c'est armé, mais armé, qu'est-ce que ça veut dire armé? Est-ce qu'une corde peut être une arme? Est-ce que
une cuillère pourrait être une arme. Ça
une
veut
cuillère.
Dire que. Une arme, c'est n'importe quoi qu'on va utiliser pour infliger des voies de fait ou des lésions. Donc, il faut enlever de notre tête la définition commune d'une arme, c'est-à-dire un fusil.
C'est ça. Ça veut pas dire qu'après un fusil, il a mis ça à la tempe de quelqu'un puis il a dit, gars, tu me fais une fellation ou je te fais sauter la tête. Là. C'est pas nécessairement ça. Là. Une arme, c'est pas ça que ça veut dire. Là.
Non, si c'est ça, je vais vous avouer que je vais tomber en bas de ma chaise. Je veux dire, je comprends là, qu'il accumule les frasques judiciaires, mais c'est quand même pas quelqu'un, du moins, là, de ce qu'on sait de lui, qui aurait cette tendance-là. Une arme, là, je vous donne un exemple, Éric, c'est, j'ai déjà fait un dossier dans lequel il y avait un voie de fait armé, l'arme étant une maison. Donc, un des belligérants avait rentré la tête d'un autre belligérant dans le mur, et donc l'arme était le mur de la maison qui est raccroché à la maison.
Okay.
Donc, faut enlever de notre tête, c'est pas nécessairement avec un fusil, un couteau. Ce que je sens, et c'est toujours fallacieux de faire parler une accusation sans avoir les faits, mais ce que je sens là, depuis hier, ça sent le trip SNM là, qui a mal viré.
C'est ça, parce que là, ce qu'on apprend ce matin à travers certains médias, c'est que ça serait un objet sexuel, l'arme.
Ben, et ça fait seulement du sens. Je veux dire, je ne donne ni n'enlève rien à M. Boisclair, sauf que prenons pour acquis que c'est quelqu'un là qui respecte nos lois, là, donc qui fait pas de voix excès contre personne, etc. Mais évidemment, une fois qu'on est dans la chambre à coucher, chacun a son menu privilégié, là, c'est-à-dire, et les habitudes alimentaires de tous et chacun ne se ressemblent pas nécessairement. Donc, pour qu'il y ait eu une arme, qu'il y ait eu un tiers, un voix excès qui est armé, parce qu'on parle d'un tiers également, donc une troisième personne, il y a fort à parier que M. Boisclair n'a pas là, couru après quelqu'un dans un stationnement avec un collègue pour le séquestrer et avoir une agression sexuelle. Ça sent quelque chose qui avait été convenu, qui a dérapé, et finalement, là, au sortir de cette aventure-là, là, finalement, la personne qui a porté plainte a dit non, c'était pas du tout.
Parlons-en, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent que ça pourrait être effectivement quelque chose, un trip sadomaso. C'est comment ça fonctionne dans ce temps-là? Comment tu peux, au nom de la loi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est un consentement puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que si tu joues la victime puis l'agresseur, où le jeu commence, où l'agression commence, elle est où la frontière?
Elle est très, très grise, la frontière. Parce que on ne peut pas consentir, personne dans la vie, consentir à des lésions. Je ne peux pas, moi, vous dire, Éric, on va aller battre dans la ruelle et qu'advienne ce que pourra, là, que mort s'en suit. Je n'ai pas le droit de consentir, même si c'est mon corps, mon enveloppe corporelle.
Mais prenons un exemple concret, là, un fouet. Là. C'est un arme, ça, là?
Oui, puis là, fouet, c'est un arme.
OK, bon, ben, vous me dites, que... Maître Montminy, vous me dites, là, Éric, fouette-moi. Moi, je sors le fouet puis je vous en donne 3-4 claques ses fesses là, avec le fouet. Là.
Bon, c'est particulier comme exemple, mais bon, on va y aller avec cet exemple-là. Alors, si j'ai dit d'accord pour 3-4, bon, mais c'est une chose, je pense pas qu'il y ait des lésions nécessairement, non. Fouette, on peut penser là, à un lynchage d'esclave. Là. Il y a des images qui nous viennent
dans la tête. On joue un jeu de rôle, là, puis là, vous avez un collier, voilà. Tout ça. Moi, je suis le master, puis ah ouais, j'étais avec mon fouette. Là.
Bon, mais si ça dérape, advenant là, que dans votre rôle de master, là, vous êtes saoulé de votre pouvoir, et là, qu'on avait dit 3-4 coups.
Là, je suis rendu à 10, moi, là. Je me prends au sérieux, là, j'aime
j'ai
ça.
J'ai la chair à vis dans le dos. C'était pas pour ça que j'avais signé, moi. J'avais signé pour quelque chose de fixe, et là, ça a dérapé, et là, nécessairement, et même si c'est par après et que j'ai pas hurlé ma vie pendant l'acte comme tel, une fois que l'aventure est terminée, j'ai tout à fait le droit, là, même sans l'avoir manifesté pendant, parce que on s'entend, là, il y a jeu de rôle, il y a probablement des empêchements de bouger, de parler, etc.
Attaché,
c'est toute la dynamique
etc.,
là, du SNM. Là. Donc, c'est ce que je pressens, c'est ce que ça a de l'air comme chose.
Mais est-ce que j'ai le droit, moi, de mais dans le cas qui nous implique, ça serait vous, là, mais auriez-vous le droit de consentir à ce que je vous frappe, à ce que je vous donne des coups de fouet jusqu'au sang? Est-ce qu'un individu a le droit de dire c'est ce que je souhaite?
Non, on peut pas consentir à des lésions corporelles. C'est-à-dire qu'on peut consentir, exemple, à la boxe. Ça, c'est un bon exemple.
À la boxe, à la boxe on se fait frapper dessus.
Le but est de passer la commotion à l'autre, passer le KO à l'autre. Mais il y a une limite. On pourrait pas, par exemple, au hockey, bon, mais au hockey, oui, ça joue rude. Dans les séries, on se plaque fort sur le long de la bande. Mais dans le passé, c'est arrivé où est-ce qu'il y a des gens qui prenaient leur bâton comme une hache, là, ils donnaient un coup, et ces gens-là étaient poursuivis aux criminels. Parce que là, on dépasse ce qu'on avait consenti. On avait consenti à se frotter sur le bord de la bande, mais on n'avait pas consenti à se faire donner un coup de bâton.
Comme Crosby, un peu, là, ce qui est arrivé dans la Ligue nationale quand Sidney Crosby avait frappé avec un coup de bâton, là.
C'est ce que j'avais en tête. Alors, ça a été actualité dans la Ligue nationale là, pendant un petit bout de temps, moins là, cette année, l'année dernière. Ouais. Là, mais on peut pas consentir à... Je pourrais pas consentir à ce que vous à vous dire, par exemple, tire-moi dessus avec un 12, là. Non, je veux vraiment voir qu'est-ce que ça fait. Je veux qu'on fasse un YouTube qui va être viral. Tire-moi dessus avec un 12. J'ai pas le droit de faire ça.
OK. Mais on peut... Est-ce qu'on peut aussi changer d'idée en cours de route? Si, mettons, on consent, puis on dit, OK, Éric, tu vas me donner 3 coups de fouette, puis après 2, on dit, là, arrête, là, ça me fait trop mal, je veux plus jouer. Là, ça aussi, ça peut arriver, puis tout le monde, je dois dire, ben non, là, garde, là, tu m'avais dit 3, c'est 3, là, tu vas en manger un autre, là.
Et c'est pour ça que je vous dis que la frontière sur le consentement, elle est grise, là, mais grise, pâle, pas à peu près, parce que, mais oui, j'ai le droit de changer d'idée. J'ai le droit même d'avoir commencé. Prenons l'exemple, je suis une femme, je consens une relation sexuelle avec un homme. Finalement, j'aime pas beaucoup ça, là, son style, là, ses habitudes alimentaires me plaisent pas beaucoup. Je lui dis d'arrêter. Il faut que ça se termine. Le consentement a été donné au départ, mais il est retiré. À partir du moment où je le retire, c'est terminé. Et il n'y a pas de « j'ai commencé, je vais terminer » ou « t'as dit oui, on va finir ». À la minute qu'on révoque notre consentement, l'acte est supposé arrêter. Mais on le sait, là, dans les faits, la vie, c'est pas faite comme ça. La vie, c'est pas un disque qu'on met sur pause. La vie, c'est en continu. Donc, et l'autre chose qui est difficile à gérer, qu'on voit souvent devant les tribunaux, c'est lorsqu'il y a une intoxication de la part du plaignant, mais de l'agresseur aussi. Nécessairement, la plupart des premières rencontres d'un soir se font sous l'effet de l'alcool. L'alcool rend vraiment pas plus intelligent, mais peut-être plus désinhibé. Bon, eh bien, si un homme, par exemple, dans l'exemple typique, va chez une femme, et ils boivent ou consomment la drogue, j'ai en tête peut-être du GHB, qui diminue les capacités de consentir. Et si la dame, là, elle est complètement écrasée sur son lit, elle n'est plus en état de consentir, mais qu'elle a l'air de dire oui et que l'homme en profite, c'était pas un consentement, ça. Même si elle n'a pas dit non, elle n'a pas hurlé pour dire non, elle n'était pas en mesure de donner son consentement parce qu'elle était trop affectée. Alors, vous me direz peut-être, mais le gars aussi, j'imagine, oui, le gars aussi, j'imagine, est affecté, mais c'est le gars qui a profité de l'occasion. Peu importe. Alors le consentement, c'est des défenses qui sont très intéressantes, qui sont nombreuses, et c'est difficile de convaincre un juge qui n'était pas là, parce que normalement, et parfois ça arrive que c'est filmé, là, ces aventures-là, mais si c'est pas filmé, bon, ben, on se met dans le contexte. J'avais dit oui à ceci, quand est-ce que j'ai dit non? Est-ce que je l'ai dit d'une façon que l'autre a compris? Est-ce que c'était évident que je n'étais pas capable
Maître
de consentir
Montmény,
par mon état?
À votre connaissance, y a-t-il de la jurisprudence? C'est-tu déjà arrivé qu'il y a des jeux sadomaso qui ont mal viré? Puis comment ça... Habituellement, c'est-tu l'agresseur ou l'agressé qui gagne? Parce que comment ça finit, ces affaires-là?
C'est dur. J'en ai une en tête où est-ce qu'il y avait là récemment les nouvelles pratiques de l'auto-strangulation. Là. On a vu ça dans quelques séries un peu glauques, là, des gens qui vont s'auto-gratifier avec une ceinture autour du cou et ils gèrent un peu la tension.
Comme des suicides érotiques, là, c'est-tu ça?
C'est ça, exactement. Et ça peut être géré par l'autre personne, là, une autre personne qui tire, là, finalement. Et c'est déjà arrivé souvent que... Et ça va dans les deux sens parce que... Et c'est dommage pour la victime, parce que quoi que la victime n'ait rien à prouver et que l'agresseur n'ait rien à prouver, la victime vaut quand même qu'elle prouve hors de tout doute à un juge que « Oui, oui, j'embarque dans ce genre de pratique-là, mais pas celle-là ou pas à ce moment-là ou pas de cette façon-là, et l'autre était au courant. » Donc, et l'agresseur, évidemment, n'a rien à prouver, a seulement soulevé un doute, mais advenant là, qu'on est dans une situation où il y a déjà eu échange sexuel entre les deux, déjà eu des jeux de rôle, là, on pousse un peu plus loin, là, parce qu'on est habitué de jouer ensemble, là. C'est difficile de dire que celle-là, c'était évident, parce que le regret, c'est pas la même chose que ne pas consentir.
Mais non, ça n'a rien à voir.
D'avoir fait quelque chose en disant, mon Dieu, j'ai-tu vraiment fait ça? Quel genre de personne est-ce que je suis? C'est pas la même chose que de dire, wow, j'ai jamais dit oui à ça. On me l'a fait contre mon gré.
Quels sont vos conseils pour des gens, là, parce qu'il y en a des auditeurs qui nous écoutent sûrement, là, qui ont des pratiques sexuelles un peu alternatives. Là. Il va falloir que ces gens-là commencent à signer des formulaires puis détaillent exactement jusqu'où l'agressé peut aller par rapport à l'agresseur ou comment. Quel conseil vous avez pour ces gens-là? Parce que ça devient compliqué. Là.
Le meilleur conseil, là, dans le doute, abstenez-vous. Parce que, et j'en vois des cas de des bons petits gars, là, un gars d'université qui ramène une fille chez elle, il pense que ça va, la fille est saoule, il est saoul aussi, écoute, il est pas assez mature pour comprendre qu'il aurait dû passer son tour, attendre à demain matin pour se reprendre, il pense qu'il fait ce qu'il a le droit de faire, c'est hyper difficile, autant du côté de la poursuite que de la défense, ces dossiers-là, parce qu'on se retrouve d'abord... C'est pas glorieux venir compter ça. On s'assume dans la chambre à coucher, mais est-ce qu'on s'assume devant le jury? Est-ce qu'on s'assume devant une cour de justice de dire quelles sont nos pratiques sexuelles? Et là, je parle autant du plaignant que de l'accusé. Est-ce qu'on veut revivre tout ça? Si c'est vraiment quelque chose qui nous a blessés, marqués, on veut-tu aller à court, témoigner tout ça? Se faire contre-interroger par un avocat qui est habile, c'est pas plaisant. C'est long et ça peut être souffrant, entre guillemets. On revit des choses. Alors, ces dossiers-là, le meilleur conseil, là, quand vous n'êtes pas sûr, là, abstenez-vous.
Faites d'autres choses.
Et ça va pour la vie de tous les jours également.
C'est un excellent conseil. Maître Montmény, merci beaucoup des explications.
Toujours un plaisir. Bon week-end.
Au revoir.